toujours en direct depuis la foire de l'Aréole, c'est les Radiofolies avec maintenant un petit forum autour de la Frana et je laisse Francis au micro.
Eh bien, rebonjour chers auditeurs, toujours oui, comme disait Damien à qui je vais adresser toutes mes félicitations parce qu'il nous faut un technicien pour faire cette foire et Damien est toujours présent. Alors mais aujourd'hui pour parler un petit peu de la Frana. La Frana c'est quoi? C'est la Fédération des radios associatives de la Nouvelle-Aquitaine. Et pour en parler, qui mieux que son président Patrick De Lorenzo? Bonjour Patrick.
Bonjour Francis.
Et la fondatrice et présidente de RIG Radio Iguane à Blanquefort, Geneviève Tessier. Bonjour Geneviève.
Bonjour.
Geneviève qui est une habituée de la radio. Ça fait combien que tu fais de la radio, Geneviève?
Depuis 1981.
D'accord.
Voilà. Où j'ai posé mes valises à un moment donné, entourée de mes jeunes pour aller parler de la FM et de la HF et ainsi de suite. Je me demandais où c'est qu'il m'a mené d'ailleurs. Hein. Je ne connaissais absolument rien à tout cela.
Oui, mais tu es encore là aujourd'hui.
Voilà, je suis quand même là aujourd'hui.
Quelques 30 et quelques années après. Alors, comme tu es une mémoire vivante, puisque tu es à la création de la FARL.
Alors, pas complètement. La FARL avait été créée avant moi.
Alors, la FARL, c'est la Fédération
Aquitaine des radios locales, qui avait été créée avant moi par des passionnés de radio. Et il y avait des personnes que j'ai rencontrées, bien entendu, qui avaient d'ailleurs créé le Syndicat National des Radios Libres à l'époque.
La SNRL qui existe encore. Qui
est alors, c'était pas la SNRL, c'était le CNRL, mais en fin de compte, qui avait été créé aussi à Bordeaux.
Confédération. C'était la Confédération.
C'était la Confédération nationale des radios libres qui avait été créée à Bordeaux. Et donc, il y avait eu des rencontres, bien sûr, il y avait eu des articles dans les journaux, donc j'avais été au courant. Et j'avais été à leur réunion, et je m'étais dit, bon, il va falloir peut-être un jour, on se rapproche des autres radios. Alors, mon parcours est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'il y a eu à une époque le sénateur Delfaux, qui recevait à Paris les responsables des radios, aussi bien associatives, commerciales que le service public. Il avait réalisé pendant plusieurs années de rang, comme ça, des rencontres, il était au Sénat. D'ailleurs, j'ai visité le Sénat à cette occasion-là. Et il se trouve qu'il avait comme chargé de mission un responsable. Je suis en train de chercher son nom, ça me viendra peut-être après. Qui, en fin de compte, faisait le tour de certaines associations au niveau de plusieurs régions. Et donc, à un moment donné, il m'avait demandé si je pouvais réunir des responsables de radio, puisque lui-même était à ce moment-là au niveau national, au niveau des radios libres. Il faisait partie d'une radio de Reims, Jean Maillet, il s'appelait, voilà. Tu vois, ça me revient. Il y a longtemps que je n'ai pas parlé de Jean Maillet. Et donc, Jean Maillet, qui était un chargé de mission du sénateur, mais en même temps bénévole dans une radio du côté de Reims, un jour, à une des rencontres, à la fin de la rencontre, il est venu me voir pour me dire « Je vais à Bordeaux, je ne sais plus si c'était dans 15 jours ou 3 semaines, et est-ce que tu ne pourrais pas faire en sorte de rencontrer les radios associatives ?» Et c'est là que j'ai cherché dans des papiers que j'avais eus le nom des responsables de la FARL. Et que j'avais téléphoné à certains. Et il y a Jean-Paul Épinette, qui était de Radio 4 Canton, qui en faisait partie, qui lui, par contre, a été à la création de la FARL, qui en faisait partie, et je lui ai téléphoné. Et il s'est demandé, d'ailleurs, qui c'est qui lui téléphonait, si elle n'était pas un petit peu dingo, cette fille-là, d'ailleurs. Et nous étions rencontrés après, dans le cadre des rencontres qu'il y avait au niveau de l'Université d'été de la communication. Et c'est comme ça qu'on a relancé la FARL. Voilà, la FARL avait été créée, puis était un petit peu endormie. Et puis on l'a réveillée et on est toujours là.
Alors combien de radios font partie à l'heure actuelle de la FRANA?
À peu près dans les 35 à 40. Ça dépend des années, on va dire. Puisque l'adhésion étant volontaire, il y a des années où on est nombreux, des années un peu moins nombreux, c'est entre 35 et 40.
Et Patrick De Lorenzo, donc le président de la FRANA, combien y a-t-il de radios en Nouvelle-Aquitaine?
Je crois qu'il y a à peu près entre 80 et 85 radios associatives en Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire Charente-Poitou, Limousin et l'Ancienne-Aquitaine. C'est ça, nous sommes, je crois, 83 exactement.
Oui.
Et donc, la FRANA en récupère la moitié.
Non, on ne récupère rien.
Non, mais enfin,
On était déjà la plus grosse fédération régionale.
Non, c'est ça.
Hein, parce qu'on a toujours, Patrick peut en parler, hein, on a toujours essayé d'accepter, je dirais, la radio telle qu'elle est, du moment où elle était correcte. On n'est jamais rentré dans la manière de s'organiser les associations. Enfin, on était là pour les aider à pouvoir exister, c'est ce qui nous est arrivé, parce qu'à une époque, on a travaillé avec la SACEM, avec l'ASPRE, avec toutes ces organisations. D'accord. Qui maintenant se travaillent au niveau national. Donc c'est vrai que la Fédération Aquitaine, qui est devenue donc la FRANA, a moins de travaux de ce côté-là. Mais par contre, ce qui est important, c'est de se rencontrer de temps en temps et de pouvoir parler, de s'entraider.
Comme aujourd'hui.
Exactement.
Comme aujourd'hui, c'est une opportunité, Radio Entre-deux-Mers, d'inviter la FRANA.
Hein ? Merci de l'invitation. Et c'est vrai que bon, nous avons changé, permuté l'affaire à la FRANA du fait justement donc des nouvelles, du nouveau paysage, on va dire, des régions françaises. Et comme disait Geneviève. Tout à l'heure, oui, nous sommes là pour aider les radios. Bien que les radios, quand même, maintenant, je pense, c'est mon point de vue, roulent plus facilement qu'à une certaine époque, je pense aux années 90, où là, les dossiers étaient quand même assez compliqués et tout le monde n'était pas très au courant, j'allais dire, de ce qu'il fallait faire.
Mais c'est toujours très compliqué.
Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur le Président. C'est toujours très compliqué de monter un dossier. Même si la fédération est là pour aider ces radios-là, elle n'est vraiment pas là. Je veux dire, c'est pas une grosse béquille, quand même.
Ouais. Et moi, j'ai une question à vous poser. Comment se portent les radios à l'heure actuelle ?
Oh ben je pense que se porte, ça c'est mon point de vue, je pense que se porte comme il y a 20 ans, c'est-à-dire, je vais pas dire mal, c'est pas vrai, non, ça serait de la démagogie de dire ça, je pense. Hein. Mais, bon, allez, elle se porte bien, mais il faut qu'elle soit soutenue.
Voilà, c'est ça. Comme on en parlait tout à l'heure avec monsieur le sous-préfet, qui était là, qui était surpris, déjà la première fois que je lui en ai parlé, d'avoir une radio locale dans sa région, enfin dans son secteur. Alors, est-ce que les radios sont connues, pas assez connues ?
Je pense qu'elles ne sont pas assez connues, mais ça, c'est aussi que la...
Est-ce que c'est une volonté politique ou...
Je ne crois pas. Je pense que la communication, c'est quelque chose de difficile. Et en fin de compte, à part si vous avez besoin, que vous avez besoin, que vous allez à votre radio locale, c'est vrai que les radios, elles sont. D'abord, on a un problème quand même, c'est que on est écouté sur un petit rayon. Une radio associative, elle a un rayon. Alors bien sûr, les ondes des fois dépassent les rayons, mais elle a un rayon à peu près de 30 km. Autour de chez elle. Donc, obligatoirement, on n'est pas comme les radios commerciales avec des fréquences qui se... Donc, obligatoirement, si vous écoutez votre radio associative, c'est des fois, on va dire, par hasard. Ce qu'on dit souvent chez nous, et ce que Pascal dira peut-être, je ne sais pas quand il va venir, c'est qu'en fin de compte, on est souvent des radios de rendez-vous. Alors, quand je dis de rendez-vous, ça veut dire que dans les radios associatives, vous avez des émissions qui sont souvent réalisées par une équipe salariée, pour certaines, puis par des bénévoles. Tandis qu'au niveau des radios commerciales, elles ont une étiquette différente. Elles vont faire de la radio pour les 30 ans, pour les jeunes, pour les plus âgés. Donc elles ont, au niveau musical et au niveau émission, quelque chose de plus de différent. Nous, il faut vraiment avoir envie. Donc on peut très bien venir écouter une radio associative, l'aimer, donc on y revient, et puis ne pas l'aimer. Donc c'est certain qu'on a une grosse difficulté, c'est qu'en plus, on ne nous entend pas dans un rayon très important. Donc si vous êtes en voiture, ben, une fois que vous avez dépassé ce rayon, vous êtes obligé d'écouter autre chose.
Donc c'est à nous d'exister.
Voilà. Par exemple, moi, je suis venue de RIG, on n'est pas très loin, on est dans le même département de la Gironde. Bon, moi, je suis à Blanquefort, mais quand on arrive ici à La Réole, on n'entend plus RIG, ce qui est logique. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les gens ne prennent plus la peine d'écouter, enfin, on le faisait chez soi, de mettre son poste sur des fréquences qu'on a l'habitude, mais au niveau de la voiture, c'est un peu plus difficile. Donc on l'écoute ou on l'écoute pas. Je ne sais pas quel est ton avis, toi, Patrick.
Alors, moi, ce que je veux dire aussi, pour revenir sur autre chose, c'est qu'on sait faire la communication des autres, par contre, on ne sait pas faire la nôtre.
Je crois que c'est le cordonnier le plus mal chaussé.
On est d'accord.
On est d'accord.
Voilà. C'est encore vrai.
On a d'énormes possibilités, mais on ne sait pas le faire.
Ben oui, parce qu'on est toujours, nous, dans nos radios, on est tête dans le guidon, donc on a autre chose à faire.
Est-ce qu'on ne ressemblerait pas à des radios commerciales si on le faisait ?
Oh, je pense pas.
Avec un petit jingle qui passe régulièrement, qui revient toutes les 5 minutes.
On dit qu'on va communiquer entre nous, qu'on va faire des choses, mais on est tellement pris. Enfin, je veux dire, l'équipe de bénévoles qui sont dans les radios associatives, on a tout le temps un dossier différent à faire. On n'a plus les subventions comme on avait. Maintenant, il faut répondre à des appels à projets si on veut exister. Donc, partant de là, on est toujours sur un dossier qui doit être rendu. Tout bêtement, moi, j'avais une réponse à faire pour pour un maire qui me prête une salle dans 2 semaines. Mais ce matin, je me suis dit, il faut vraiment que je lui réponde. Et on a quand même toujours quelque chose comme ça à faire. Et c'est vrai que quand je disais qu'on est une entraide, on n'est pas une entraide financière entre nous, mais bien souvent, c'est important quand même que l'on existe parce qu'on tranquillise quand même l'autre. Parce qu'on a tous eu le même problème à un moment donné. Donc, on peut s'en parler et on peut se donner des idées, des aides morales, on va dire.
Et bien, pour en parler, on en reparle dans ce moment après une pause musicale.
Toujours sur Radio Entre-deux-Mers, depuis la foire de l'Aréole. Et je redonne le micro à Francis.
Oui, merci Damien. Donc, toujours avec Geneviève Tessier et Patrick De Lorenzo, on parle de la FRANA, la Fédération des radios associatives Nouvelle-Aquitaine. Alors, Patrick, on va parler d'un phénomène à l'heure actuelle, qui, même avec vous, Geneviève, c'est les web radios, qui font partie de la famille aussi.
Voilà, oui, Francis, c'est pour cela d'ailleurs que nous avons modifié les statuts de la FARL. Qui est devenue après la FRANA, c'est justement pour accueillir au sein de la fédération les radios web. Les radios donc qui n'émettent que sur Internet, qui ne sont pas en diffusion par voie hertzienne.
Donc, je voudrais juste rajouter à ce que dit Patrick, c'est que certaines radios n'ont pas pu avoir des fréquences FM. Oui. C'est pas toujours qu'elles ne veulent pas.
C'est le
cas de Radio Cultura, je te redonne la parole, bien sûr.
Radio Cultura, justement, un Pays basque. Hein.
Voilà.
Parce qu'il faut rappeler que les fréquences non plus, il n'y en a pas beaucoup.
Voilà.
Hein, il faut attendre, je crois que si ma mémoire est exacte, il faut attendre qu'il y en ait une qui arrête pour pouvoir récupérer éventuellement sa bande passante.
Au jour d'aujourd'hui, oui, mais il y a quelques années, non. Mais maintenant, c'est exact, c'est vrai que voilà, une radio qui sort tire celle qui rentre. Hein.
Voilà, et par contre, on en parlera tout à l'heure avec le numérique. Je pense que ça va se multiplier à l'infini.
Pas tant que ça.
Comme vous disiez, tout à l'heure, effectivement, on en parlera à la fin, de cette émission.
Alors, on va rester sur les web radios.
On reste sur les web radios.
qui font partie donc de la famille.
Oui, elles font partie
parce
de la famille.
Parce que nous aussi, nous sommes des web radios.
Mais oui, bien sûr, nous avons pris tout. Nous sommes des web radios, mais nous diffusons aussi par voie hertzienne. Donc, nous sommes d'abord une radio hertzienne. Hein. Le web radio qu'on fait, nous, ce n'est pas du 100%. Nous, ce ne sont que des... c'est en parallèle de ce qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire, pour nous, c'est très simple de faire une web radio. On a un ordinateur. Tout ce qui sort de notre table de mixage, avant d'aller à l'émetteur, on l'envoie sur l'ordinateur. Et de cet ordinateur, on l'envoie sur un site ou sur une adresse IP. Et partant de là, voilà, on diffuse dans le monde entier. Voilà. On a au moins comme ça 7 milliards d'auditeurs potentiels.
Oui, c'est ça. Bon. Qui ne sont pas valorisés par rapport au dossier.
Non, mais bon.
n'est-ce pas, Mireille ? Les 7 milliards d'auditeurs qu'on peut avoir dans le monde entier, si on pouvait les valoriser au niveau du dossier de subvention, ça serait formidable.
Ça serait peut-être bien, oui, en effet.
Alors, donc, nous rejoint Mireille De Lorenzo, qui est donc directrice de CFM Casteljaloux, la radio de Casteljaloux, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui et de par son salarié demain et après-demain aussi. Voilà.
Et les membres du Fonds de soutien à l'expression radiophonique.
Oui, et voilà, le fameux FSER, mais je vous dis, chers auditeurs, c'est très compliqué.
Le dossier qui fait peur à tout le monde et... À plus forte raison, parce que c'est notre financement principal.
Voilà, donc si on peut retracer l'histoire du FSER, à quoi ça sert ?
Mais c'est le...
C'est le fonds de soutien.
C'est le fonds de soutien à l'expression radiophonique. C'est le premier...
financeur.
C'est le premier financeur de toute radio locale. Ça représente environ... pour notre part, en tout cas, le fonds de soutien représente un tiers de notre budget.
C'est le fonds de garantie de notre radio.
C'est le fonds de garantie de toute radio,
catégorie
locale A. Associative en catégorie A. Ouais. Voilà.
Un dossier très compliqué à faire.
C'est un dossier qu'on constitue tout au long de l'année, qu'on doit rendre... Pardon, qu'on doit rendre impérativement au 15 avril de tous les ans pour pouvoir avoir nos fonds de fonctionnement et qu'on perçoit parfois en fin d'année en cours. Mais c'est un dossier sur lequel il faut travailler en permanence toute l'année pour bien le peaufiner et pour essayer d'obtenir le maximum de points possibles pour pouvoir avoir donc notre subvention de fonctionnement et depuis 2007 une subvention sélective si on veut bien, on n'est pas obligé hein, mais
c'est une sélective qui est rattachée au fonctionnement.
C'est des fonds supplémentaires qu'on peut avoir si on développe un travail au niveau de notre radio, si on développe des critères dans notre travail, déjà l'échange de programmes entre radios de catégorie A, La diversification des ressources, montrer au fonds de soutien qu'on ne vit pas uniquement avec leurs fonds, mais qu'on se débrouille aussi par nous-mêmes pour essayer d'avoir des revenus. Et ensuite, on a des critères à développer en culturel, en éducatif, en aide-moi Geneviève,
intégration,
intégration, en développement local, et ensuite, je pense que l'échange de programmes. Alors, ça je l'ai déjà dit.
Si on schématise, pardon, on vous donne tant, mais prouvez-nous qu'on vous les a bien donnés par votre travail.
Prouvez-nous, mais si on le prouve, on peut avoir de l'argent supplémentaire. Oui. Donc ça vaut quelque part, ça vaut le coup quand
ça
même.
Ça vaut le coup.
Parce qu'en fait, nous demande de valoriser le travail qu'on fait tout au long de l'année. Parce qu'en fait, ce travail-là, on le fait déjà. Mais il faut le sectoriser, il faut le valoriser.
Par le biais d'attestations.
Par le biais de ces fameuses attestations.
On se bat tout le temps avec nos animateurs.
C'est pour ça que je disais que c'est un travail de toute l'année, parce que les attestations, il faut suivre les émissions qui sont faites à la radio et demander des attestations aux personnes qui viennent témoigner à la radio.
Et des attestations spéciales où il ne faut pas spécifier qu'on est intervenu dans telle émission, il ne faut pas citer le nom. C'est très compliqué.
Là, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a des... Ça change, enfin bon, c'est... Après, ça dépend qui est à la commission, je crois. On ne sait pas toujours bien valoriser notre travail.
Voilà, c'est ça.
Ce qu'on disait tout à l'heure, on ne sait pas toujours bien valoriser notre travail.
Le travail, on le fait. Il est fait, c'est un fait. Hein. Mais voilà, on ne sait pas ce qu'on me disait tout à l'heure. Voilà, on ne sait pas faire notre promotion. Hein. Et comme là, on ne sait pas non plus valoriser. Parce que quand vous faites une émission, vous rentrez dans les critères, vous rentrez dans les clous. Mais après, est-ce que vous allez demander à la sortie de la fin de cette émission, est-ce que vous allez demander une attestation à la personne qui est venue, à l'invité qui est venue? Non, vous ne le faites pas. Vous le faites souvent quand le dossier arrive. On le fait, bien sûr, mais pas toujours. L'animateur qui le fait n'y pense pas. Non. Celui qui fait le dossier, il va y penser. Geneviève va y penser.
Il faut rappeler tous les gens qui sont passés.
Exactement. Donc voilà, qui a fait quoi, quand et comment, qui est venu.
Pourquoi ils sont venus quand on ne fait pas partie de l'émission.
Alors, c'est vrai, je voudrais revenir sur le fonds de soutien. Moi, je n'ai jamais fait un dossier fonds de soutien. C'est toujours Mireille qui s'en est occupée ou Geneviève qui fait ses radios. Hein. Mais d'après ce que j'entends dire, c'est le fonds de soutien, c'était très compliqué avant de faire un dossier fonds de soutien. Maintenant, c'est facile, on va dire. Fonds de soutien, si vous rentrez avec le clou, vous l'avez.
Le fonctionnement.
Je parle du fonds de soutien. Oui. Par contre, après, la sélective, c'est là que c'est devenu compliqué.
C'est compliqué.
Ouais. Ça roulait sur les rails vraiment pour nous, et puis tout d'un coup, bam, il y a eu la sélective. C'est pas plus mal aussi, au moins on pouvait être reconnu au moins grâce à ça. Grâce à ça, on était reconnu. On ne donnait pas comme ça une subvention en disant tenez, vous avez bien travaillé. Vous avez travaillé, plutôt vous l'avez. C'est-à-dire que là, il faut vraiment montrer ce qu'on fait, dire ce qu'on fait, bien le faire. Et on a.
Personnellement, je suis contre cette valorisation par attestation, parce que il y a d'autres preuves qu'on pourrait apporter par le biais de la voix, du son, et qui est refusée.
Oui, mais il faut savoir quand même que la commission de fonds de soutien, je ne sais pas de combien de membres elle est, je crois que c'est 2, 3 personnes, ils doivent étudier 650 dossiers.
Oui, il y a des instructeurs.
Mais qu'ils lisent ou qu'ils écoutent, pour moi, ça revient au même.
Non, c'est pas pareil.
C'est pas du tout pareil. Il y a deux instructeurs. Et moi, je suis suppléante au fonds de soutien, c'est-à-dire que je n'assiste pas à toutes les commissions, mais pour aider le titulaire sur les instructions des dossiers de radio qu'on nous donne, il faut savoir qu'une commission examine 70 dossiers à la fois. Donc on a 70 dossiers à examiner, à regarder, voir s'ils rentrent dans les clous. C'est uniquement, les dossiers sont examinés uniquement pour obtenir la subvention sélective. D'accord. Parce que la subvention de fonctionnement est devenue plus une subvention automatique en fonction du budget que déclare chacune des radios. Voilà. Mais donc il y a 70 dossiers à examiner. Il y a deux instructeurs qui siègent de permanent au niveau du ministère de la Culture qui examinent la totalité des dossiers avant de nous les envoyer commission par commission. Et ensuite, on en débat avec les autres membres de la commission. Et c'est vraiment... C'est quand même plus juste de regarder ce qui est écrit plutôt que ce qui est écouté.
Voilà, il n'y a pas le doute sur l'interprétation. Ouais.
Voilà,
ça, c'est...
voilà, en même temps, bon, ce qu'on écoute, on peut aussi envoyer, pas forcément... Enfin, ça peut être... c'est des enregistrements qui peuvent être faits au moment, quoi. Donc, voilà.
Moi, j'ai envie de dire quand même quelque chose, c'est que le fonds de soutien à l'expression radiophonique ou la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique, c'est une drôle de chance que nous avons, nous, les radios. Pourquoi ? Parce qu'elle est composée de membres, bien entendu, qui viennent du CSA, de l'État, de ci, de là, mais elle est composée aussi de membres de chez nous qui ont été élus pour siéger. Si jamais dans certaines institutions où on fait des demandes de subventions, il y avait des associatifs qui seraient là pour examiner, peut-être que certaines associations auraient plus de subventions que d'autres. Parce que là, quand on présente un dossier, que ce soit au conseil départemental ou au conseil régional, il n'y a que les élus et les professionnels qui examinent le dossier. Tandis que là-bas, il y a nos pairs. Et nos pairs, ils savent ce que c'est parce qu'ils sont dedans, ils sont élus. C'est quand même une chance que nous avons. C'est pas quelque chose qui vient comme ça tout seul. C'est une chance d'avoir des personnes qui peuvent des fois prendre la parole et défendre un dossier parce qu'ils le connaissent.
Voilà, c'est ça.
Il connaît les difficultés qu'a pu avoir telle ou telle radio pour pouvoir le composer. Parce que quand même, il est quand même donné sur nos recettes, certifié par un expert comptable depuis le départ. Pas parce que nous avons beaucoup de subventions, mais parce que nous devons faire certifier notre dossier. Donc c'est quelque chose qui est très... Enfin, qui est quand même très cadré et qui est quand même une chance pour les radios.
Très bien. Alors, par contre, Geneviève, j'aimerais que vous expliquiez d'où vient l'argent que nous recevons.
Alors là, je crois que ça a changé. Je ne suis peut-être pas la bonne personne pour dire cela. Avant, quand j'étais moi au fonds de soutien, l'argent venait de la publicité des radios commerciales. Parce qu'il faut savoir que les radios commerciales, elles n'avaient pas droit d'avoir une radio. Puis un jour, elles ont lutté pour avoir des radios, ce qui est très bien. Mais on leur a dit, d'accord, vous aurez une fréquence, puisque la loi, au départ, c'était une association, une radio. Donc une commerciale n'avait pas. Donc ils ont lutté pour avoir des radios associatives on leur a donné des fréquences, à condition, bien entendu, qu'il y ait un budget qui soit monté sur leur publicité. Donc c'était normalement les impôts qui devaient recueillir suivant un barème aussi, je ne me rappelle pas le barème exactement, mettons telle radio avait un barème de je ne sais pas combien de publicité, elle donnait peut-être 1% ou 2% de sa publicité pour alimenter ce fonds de soutien. C'est pour ça qu'on l'a appelé fonds de soutien à l'expression radiophonique, puisque nous, on nous empêchait d'avoir de la publicité, puisque nous, on n'avait pas le droit d'avoir plusieurs fréquences à l'époque. Je parle de cette époque-là. À ce jour, il y a eu tellement de changements que je ne saurais pas dire comment est alimenté le fonds de soutien. Maintenant, ça vient de Bercy, et si Bercy a décidé un jour qu'il a besoin d'argent pour autre chose, eh bien, nous n'aurons plus de subventions. Mais je dis ça sans en être certaine.
D'accord. Est-ce que, Patrick, les radios associatives ont un impact au niveau national ?
Au niveau national ?
Oui.
Alors, d'abord, le premier impact, c'est le niveau local, bien sûr. Niveau national, quand elles sont toutes, on va dire, si on est vraiment toutes réunies dans un même pot, oui, bien sûr, elles ont un impact. Ce maillage que nous avons entre toutes les radios, nous sommes quand même d'utilité publique, donc je pense que... On peut dire, oui, qu'on a quand même un impact assez important. Alors après, il faudrait savoir, il faudrait connaître vraiment les... J'avoue que je n'ai pas de chiffres à donner.
Par contre, on peut tabler sur combien de radios nationales en tout ?
Associatives ?
Oui.
680 radios.
680
associatives en catégorie.
D'accord.
Environ.
Et en catégorie.
On était 2000 dans les années 90.
Ah, quand même, ça a bien baissé.
Oui. Il faut dire qu'au départ, on n'avait pas de salariés. Et après, on a fait en sorte d'avoir des salariés. Ça a quand même bougé beaucoup. On est des radios professionnelles. Ça, il ne faut surtout pas dire le contraire. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on est associatif qu'on n'est pas professionnel.
Nos il y en a beaucoup qui font l'amalgame avec radio locale et radio amateur.
Voilà, et ce n'est pas ça.
C'est non.
Voilà. Les radios associatives aujourd'hui sont des radios professionnelles.
Oui.
Après, elles ont une, bien sûr, on ne les entend pas partout, ça c'est vrai.
D'ailleurs, au niveau du fonds de soutien, ce qui est valorisé aussi, c'est la formation du personnel des radios associatives.
Oui.
Donc on est obligé d'envoyer notre personnel salarié en formation tous les ans.
Oui, on est une entreprise.
Absolument.
Nous sommes des radios professionnelles, oui.
Eh bien, on va rester sur ces mots pour marquer une deuxième pause musicale et on se retrouve avec Geneviève, Patrick et Mireille.
Thank you.
oui, coucou, comme dirait notre ami Gérard, Gérard Beau, que vous retrouverez cet après-midi dans C'est beau, c'est bon, de 15h à 16h. Et Gérard qui nous fait toujours la gentillesse en partenariat avec TF1 et le télé-shopping de nous offrir, de vous offrir, amis auditeurs. Et si vous êtes sur la foire, vous passez, vous laissez un petit bulletin dans l'urne et il n'y a pas de problème pour gagner un fabuleux cadeau du télé-shopping. Et nous, nous sommes de retour donc avec Geneviève, Patrick et Mireille pour parler de ce qui passionne les foules, le FSER, le fonds de soutien. Mais on va parler, on parle aussi de nous, les radios locales. Radio locale par rapport aux radios commerciales, est-ce que c'est toujours une guerre ?
Non.
Oh, je pense que c'est l'arche, on peut dire que l'arche est enterrée. Peut-être que dans certains coins, oui, il peut y avoir certaines animosités entre le commercial et l'associatif. Mais je vois que chez nous, en Aquitaine, et nous, Nouvelle-Aquitaine, non, on n'entend plus parler comme ça de... Oh, il peut y avoir encore peut-être effectivement dans certains coins. Parce que c'est vrai que les radios commerciales, bon, on leur a marché un peu dessus. Bon, il faut bien que le soleil se lève pour tout le monde, moi je dis, hein, au niveau de la publicité. Bon, eux, ils voulaient la publicité que pour eux. Ils ne voulaient pas que les radios associatives aient droit à de la publicité. Bon, nous, on a droit jusqu'à 20% de notre chiffre d'affaires, je vais dire. Hein, donc, de publicité commerciale, on dit bien. Hein. Et ce qu'aime le fonds de soutien, justement, c'est la diversification des ressources. Donc il y a la publicité commerciale, il y a la publicité associative, j'allais dire, non commerciale, et puis tout ce qui peut graviter autour de... parce que nous sommes une association comme n'importe quelle association. On est régi par la loi 1901, donc nous pouvons faire toutes sortes d'animations lucratives, j'allais dire, pour justement rentrer des fonds autres que ceux du fonds de soutien. Et partant de là, c'est vrai que certaines radios commerciales qui sont arrivées après nous, il faut dire. Donc,
oui, ils sont arrivés après, nous étions les premiers. Hein,
voilà, c'est nous qui avons monté la voie. Ils se sont imposés parce qu'ils sont arrivés avec grands moyens financiers, des émetteurs beaucoup plus puissants que nous. C'est ça, Geneviève, au départ, c'était vraiment ça. Hein.
Et bon, heureusement. Après, le business s'y est mis.
Voilà, après, bon, tout ça s'est un peu régularisé. Et c'est vrai que maintenant. Je pense qu'on est quand même, on travaille tous en bon terme et ce qui est pas plus mal.
Ça nous arrive aussi des fois d'entendre nos propres émissions ou des parties de nos émissions sur des radios commerciales.
Ça, c'est ça intéressant.
Arrive. Ça arrive, disons. Et par contre, par rapport justement à... Il n'y a pas très longtemps, j'avais une émission qui a dû être mise sur le podcast de notre radio, je suppose, j'en sais rien. Et il y a Radio Galère à Marseille qui était intéressée sur une émission au niveau de la Palestine et qui nous a écrit « Est-ce que je peux reprendre votre émission ?» Donc, il y a entre nous quand même un soutien, je dirais. Ce qu'on ne sait pas bien, c'est le développer parce qu'on n'est pas très nombreux. C'est que bien souvent, nos animateurs, ils viennent faire leur émission. Mais après, tout le reste de la radio, tout ce qu'il faut s'occuper, et il en faut en faire, ben, il s'en occupe un peu moins. Voilà. C'est un petit peu là où on a quelque chose qui... Et on ne peut pas avoir plus de salariés que ce que l'on a.
Alors, la radio, ça a été la radio. Pendant la guerre, c'était la radio. Il n'y avait pas de télévision. Est-ce que la télévision a toujours cet impact au niveau des radios, ou est-ce que la radio n'a pas pris un petit coup dans l'aile?
La radio, les gens l'écoutent beaucoup en voiture. Voilà, c'est là où, justement, nous sommes défavorisés par rapport à une radio commerciale, puisque, justement, nous n'avons pas des réémetteurs. Et donc, quand le conducteur a dépassé un certain truc, il ne nous entend plus. C'est là où on a notre faiblesse.
Oui, et puis on a notre identité aussi locale.
Justement, au niveau de l'IP ou quelque chose, peut-être dans les voitures, peut-être ça n'existerait pas. Mais je ne suis pas technicienne.
Je pense que ça va arriver bientôt.
Problème, en effet, c'est ça. C'est
on
que
n'aura
la
plus
radio
besoin de réémetteurs.
S'écoute le matin, et là, le matin, hein? Le matin, et puis dans la voiture.
Oui, Patrick.
Et après, il y a aussi maintenant une habitude des jeunes d'écouter les podcasts sur leur téléphone. Alors, je crois qu'il y a eu il faut qu'on s'adapte à une nouvelle manière d'écoute. Mais celle qui nous défavorise, c'est la voiture.
D'accord. Patrick, tu voulais intervenir là-dessus.
La mobilité, tu veux dire, c'est ça.
Oui.
C'est la mobilité surtout.
Oui.
C'est vrai que grâce aux smartphones maintenant, on pourra beaucoup, smartphones et tablettes, donc tout ce qui est nomade, on pourra écouter donc, les radios. Mais dans un futur, je veux dire, pas très proche. Proche si on revient à l'humanité, oui, ça, c'est très très proche, mais ça c'est peut-être dans 10-15 ans, moi je dis, quand le numérique sera vraiment bien développé,
même avant, parce qu'avec les applications,
oui, les applications
bientôt on aura une application dans la voiture, on pourra écouter radio entre deux mers partout en France.
Mais c'est ce qu'on peut faire d'ailleurs actuellement.
Il y a des applications. Je ne dirais pas, parce qu'on est justement à l'antenne, il y a des applications qu'on m'a mis où je pourrais écouter RIG ici.
Ouais.
Mais c'est une application sur le téléphone, donc c'est vrai qu'on ne pense pas spécialement à le mettre à la voiture.
On pourra la mettre après sur la voiture.
Voilà. Je pense que ce sont des applications qui, à ce moment-là, on aura peut-être une autre manière.
Parce que pour l'instant, les voitures, au niveau des applications, c'est très limité.
Ça commence à devenir connecté. Les voitures commencent à être connectées et le son ne blanc en plus. Maintenant, voilà, on va avec la connectivité de tout ça, de tous ces éléments.
Parce que justement, en parlant de ça, j'avais une question qui m'est venue tout à l'heure. Est-ce que les radios commerciales n'ont pas plus de facilité pour avoir des réémetteurs que nous ?
Bah oui, elles ont plus de moyens.
Voilà, c'est ça.
Elles ont plus de moyens. C'est des grands réseaux, c'est des réseaux qui... Parce qu'elles changent de nom, mais bien souvent, les uns appartiennent aux autres. Là, je n'ai pas en tête, mais je sais qu'une telle radio appartient à telle autre. Après, ils ont des noms différents parce qu'ils s'adressent à des publics différents. Mais en réalité, il y a peut-être 3 ou 4 grands groupes,
comme,
c'est tout.
RMC n'appartient pas à RMC.
Voilà.
Ça appartient
et oui, mais peut-être qu'RMC a d'autres fréquences autres que l'on n'a pas maintenant en tête et qui leur appartient.
Oui.
Tandis que nous, une radio locale, c'est une radio locale, c'est une association.
Alors parce qu'on parlait des applications, le numérique, la radio terrestre numérique.
Alors la radio terrestre numérique, le CSA n'en voulait pas. Et donc on nous en parlait, mais surtout, oh, ça ne viendra pas. Puis un beau jour, on ne sait pas pourquoi, le CSA s'est réveillé. Et là tout d'un coup, ça y est, il y a des appels à candidature en DAB, il y en a eu à Bordeaux, enfin il y en a eu d'abord à Marseille, à Paris je crois, à Lille, je
Nantes.
Crois.
Nantes aussi a été.
À Lille, oui. Et puis, ça a mis longtemps. Et puis, tout d'un coup, ça y est. En Aquitaine, enfin, la Nouvelle-Aquitaine, il y a eu l'appel Bordeaux-Toulouse-Arcachon. Puis maintenant, il y a Bayonne, La Rochelle, Pau, là. Et puis, il va y avoir encore. Et donc, tout d'un coup, on se réveille. Alors là, on est un peu démunis, nous, les radios associatives. Pourquoi on est démunis ? C'est qu'on sait très bien que là, par contre, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que si je prends l'exemple, le mien, l'exemple de Bordeaux, nous, il va falloir que l'on émette sur Bordeaux. Mais en même temps, ça va être une autre manière, puisqu'il y a un multiplexeur. On ne pourra plus émettre par nous-mêmes. Ça va être notre signal qui va partir à un multiplexeur, qui va rediffuser sur le truc. Et nous serons 13 dans ce multiplexeur. On sera comment, on n'en sait rien. Mais obligatoirement, pas gratuitement. Donc ça veut dire que c'est un coût supérieur. Non seulement le fait d'envoyer au multiplexeur, le fait de louer cet espace à un commercial et le fait de diffuser.
Ça fait, hein.
Donc, mais en même temps, on nous a dit... Oui, mais vous, les radios FM, vous êtes prioritaires. D'accord ? Et vous êtes prioritaires, mais bon, et on ne sait pas quand c'est que ça reviendra. C'est-à-dire, quand est-ce que ça reviendra si vous ne faites pas maintenant, si vous ne répondez pas maintenant, on n'en sait rien. Apparemment, il y a des discours qui changent entre la réunion qu'il y avait eu pour les radios de Bordeaux et la réunion qu'il y a eu pour les radios de Bayonne. Moi, je n'ai pas été à celle de Bayonne, donc je ne le ferai pas. Mais il y a des différences. Au niveau de Bayonne, à première vue, d'après ce que j'ai compris, on leur a dit « Oui, mais ça reviendra. Si vous ne faites pas la demande maintenant, ça reviendra. » N'empêche que, du moment où les 13 fréquences auront été acceptées dans un multiplexeur, pourquoi voulez-vous qu'elles partent ? Donc ça veut dire 13 radios qui vont aller sur Bordeaux, mais pas les autres. Or, quand on regarde l'appel à candidature Toulouse-Pau-Arcachon, il y a 66 associatives, 34, je dis des chiffres à peu près, hein, c'est à peu près, je ne l'ai pas exactement là, 34 B, je ne sais pas combien de C, je ne sais pas combien de D. Or, normalement, à Toulouse, il va y avoir un multiplexeur à Bordeaux, un multiplexeur. À Toulouse, il y aura un multiplexeur étendu, ça voudra dire avec plein de fréquences. À Bordeaux, pareil. À Bordeaux, dans le Bordeaux étendu, qui c'est qui va pouvoir y aller en associative ? RCF. Ils ont répondu à la sortie, oui, nous, on va demander à notre évêque. Mais moi, je cherche mon évêque laïque. Je ne l'ai pas encore trouvé.
Ah, c'est dommage. On va lancer un appel sur Radio Entre-deux-Mers.
Un évêque laïque.
Oui. Peut-être qu'on en trouvera un sur l'Entre-deux-Mers.
Qui sait ?
Est-ce qu'on peut préciser aux auditeurs qu'est-ce que la radio terrestre numérique par rapport à la radio FM ?
Alors, la radio FM n'est pas supprimée. La radio numérique terrestre, en fin de compte, ça passe par... c'est un petit peu Internet. C'est une autre fréquence qui va arriver. Disons que j'ai compris le système, mais je ne suis pas assez technicienne pour expliquer ce que ça va être.
Moi, je pense que ce qui va surtout changer l'esprit des auditeurs, pas l'esprit, mais les auditeurs, c'est qu'il faudra qu'ils s'équipent déjà d'appareils numériques spéciaux. Ça ne pourra pas être comme la télévision. La télé, la TNT, on mettait un petit boîtier adaptateur donc, entre l'antenne et sa télé, et ça marchait. Tandis que là, la radio, non. La radio, c'est monobloc. On ne peut pas intercaler quelque chose entre l'antenne, à moins d'intervenir dedans, mais ça coûterait trop cher, c'est pas la peine. Vous avez des radios réveil, vous avez le petit réveil que vous avez, le petit réveil radio que vous avez aussi dans la salle de bain, vous avez
et
les autoradios.
Tout simplement le transistor.
Oui, c'est ça, le transistor, effectivement, qu'on a dans la salle à manger. Et tout ça, hein. Les autoradios, mais quoi que les voitures, maintenant les constructeurs de voitures, surtout allemands, commencent à équiper leur. Ont commencé déjà à équiper leur véhicule de radio numérique, un récepteur numérique. Hein. En France, je crois qu'il y a peut-être Renault qui a commencé à faire certaines choses, mais ils sont revenus un peu en arrière. Enfin, ils ont temporisé surtout parce que. La France, c'est quand même paradoxal, mais c'est comme ça. On n'arrive pas à s'entendre, surtout au départ, sur sur quel support nous allons y mettre. C'est un peu comme le VHS, le Betacam, et puis le Secam, pardon, qu'il y avait pour la vidéo. Hein. Et là aussi, là on est parti, je crois que c'est le DAB+, c'est celui-là. Donc il y a eu deux ou trois normes, je crois, avant. Donc Philips avait sa norme, Panasonic avait sa norme aussi. Donc voilà, il y avait surtout les gros fabricants d'appareils de réception qui créaient un lobbying aussi autour de tout ça. Et donc pour en revenir à l'auditeur, mais ce qui va changer surtout, c'est ça, c'est le nombre de récepteurs qui devront changer à leur maison. Moi j'ai compté, j'en ai 11 chez moi. Je ne pense pas acheter quand même 11 postes, je crois que ça vaut 90 euros ou 100 euros un poste maintenant, donc voilà. Hein. Mais après, pour en revenir à tout ce qui est lotissement, tout ce qui est émission, Geneviève a soulevé tout à l'heure Bordeaux, Toulouse aussi, Toulouse étendue. Hein. Je vois, nous, la radio en Lot-et-Garonne, si nous voulons avoir des fréquences en numérique, pour surtout, moi, ce que je veux, ce que je souhaite, moi, c'est couvrir la zone que je couvre actuellement avec ma radio. Je parle comme ça, je parle à ma radio, désolé. Hein, mais voilà, ce que je voudrais, c'est couvrir la zone que je couvre actuellement. Et là, pour couvrir cette zone-là, il me faudra peut-être 3, 4, 5 réémetteurs. Numérique, alors oui, qu'avec un seul émetteur hertzien, j'y arrive.
D'après ce que j'ai compris, Geneviève, ça porte pas loin.
C'est la même portée à peu près qu'un émetteur hertzien.
Il faut pas qu'il y ait d'obstacles.
20-30 km.
Non, il faut pas qu'il y ait d'obstacles.
En terrain dégagé.
Ouais. En terrain dégagé. Donc, intramuros sur Bordeaux.
Ben, il faudra ou monter la puissance ou alors avoir plusieurs émetteurs.
Parce que là, ne serait-ce qu'un mur, ça y est, ça passe plus.
Oui, mais c'est un peu le problème de la FM, c'est celui-là. On l'avait aussi déjà en hertzien, de toute façon, ce problème-là. Hein. Les zones hertziennes en FM ne traversent pas les murs, malheureusement, j'allais dire.
D'accord. Donc,
Faut attendre.
Oui.
Faut être là.
On en est qu'au balbutiement.
Il ne faut pas ne pas être là quand même. Après, est-ce qu'on y sera complètement ? Moi, je suis quand même contente. Au niveau de Bordeaux, les 4 radios associatives de Bordeaux ont présenté leur dossier. Après, est-ce qu'elles y seront ? Ça, c'est autre chose. Si on n'y est pas, c'est parce qu'on ne nous aura pas permis d'y être financièrement. C'est tout.
Oui. D'accord.
Après, financièrement, c'est vrai que d'après ce qui se dit, ça ne coûterait pas plus cher que passer par un prestataire, pour ne pas les nommer, Towercast ou TDF. Ça ne coûterait pas plus cher que passer par un prestataire qui vous,
oui, qui
vous
soutient en ce moment en RCA. Oui, mais en ce moment, par contre, à part aux deux radios, les autres, elles se diffusent par elles-mêmes. Moi, je sais qu'on se diffuse par nous-mêmes à Blanquefort. Bon, on n'est pas entendu aussi bien parce qu'on n'est pas très haut. Radio Campus a son antenne sur le campus. La Clé des Ondes a son antenne sur la maison. Il faudra peut-être qu'ils déménagent, mais bon, pour le moment, ils l'ont.
Parlons pas de déménagement, on est en plein.
Je veux dire qu'à part aux deux, qui, eux, par contre, ça va poser un problème parce qu'ils ont déjà un prestataire pour diffuser, donc ils auront un deuxième prestataire. Là, je peux comprendre. Mais les autres, on n'a pas de prestataire. Donc, c'est une dépense supplémentaire.
Et ce qui peut coûter cher aussi, c'est la double diffusion.
Mais oui.
Que beaucoup de radios, je pense, garderont pendant très longtemps.
Oui.
Le temps que l'auditeur s'équipe.
Mais pour eux, c'est une double diffusion. Pour nous, c'est une double diffusion, mais il y en a une qui ne nous coûte pas.
Oui.
Qui est gratuite, on va dire. Enfin... Coussi, coussa.
Enfin, d'après ce que j'ai pu comprendre à la dernière Assemblée Générale de la FRANA, les radios FM ont encore une belle existence.
De beaux jours de
mariage. Oui, alors c'est ce que nous dit le CSA. Mais quand on écoute aussi les copains qui sont un peu plus techniciens que nous, ils savent aussi que dans d'autres pays, leur CSA, eux, ont supprimé la FM.
Comme en Suède.
Oui, puis d'autres endroits.
Oui, mais je crois qu'il n'y a que 11 radios FM en Suède.
Oui, voilà, parce que
c'est quand même plus facile de supprimer d'arrêter 11 radios.
D'accord.
N'empêche
que...
C'est bon. Bon, mais écoutez, Patrick, une petite conclusion.
Mais conclusion.
Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la FRANA? Longue vie.
Longue vie à la FRANA, bien sûr. De grossir, bien sûr, que certaines radios... Moi, j'aimerais bien que certaines radios de Nouvelle-Aquitaine viennent nous rejoindre, quand même.
Geneviève, pareil. On voit débarquer le Limousin, la Charente.
Pour le moment, c'est un sujet un peu délicat.
On a déjà le Pays Basque un peu. Hein.
Ah, mais le Pays Basque est toujours là. Et on a réussi à
les
garder. Mais
écoutez, depuis que vous êtes là, le soleil est arrivé à l'arrière.
Ah, mais voyez.
Hein,
voyez.
Voilà.
Merci beaucoup, Francis, et merci à REM de nous avoir invités.
Merci.
Une petite conclusion.
Oui.
Avant de te lancer dans le dossier comme moi.
peut-être ce qu'on peut souhaiter pour la FRANA, c'est peut-être d'autres actions communes comme aujourd'hui pour essayer de se développer et d'avoir les meilleures relations possibles entre radios.
Et puis tout le monde ne peut pas avoir une foire comme on a à l'Aréole aussi pour pouvoir permettre aux radios de se développer.
Il y a d'autres circonstances où on pourra se retrouver et provoquer peut-être des animations de ce genre.
Merci à tous.
Merci à vous.